Vous voici au coin de la rue de la Visitation et du boulevard René-Lévesque, dans le quartier Centre-Sud de Montréal, caractérisé par l'imposante tour de la Société Radio-Canada, située de l'autre côté du boulevard. Ce quartier est aussi caractérisé par les nombreux commerces, restaurants et bars colorés de la rue Sainte-Catherine. Cette partie de la ville, comprise entre les rues Saint-Denis, Sherbrooke, Papineau et le boulevard René-Lévesque, est officiellement reconnue comme le village gay de Montréal. Au début du 19e siècle, ce quartier était situé à l'est des fortifications de la ville. Il s'agissait donc d'un faubourg dont la population était majoritairement composée de familles canadiennes-françaises venues de la campagne et d'immigrants irlandais ayant abandonné leurs biens et leur patrie dans l'espoir d'une vie meilleure. Il s'établissait près des grands employeurs, dont la brasserie Molson, la Tobacco McDonald et le port de Montréal. Ils s'installaient dans des loyers modestes, des habitations à deux ou à trois étages, comme vous pouvez encore en observer au nord du boulevard René-Lévesque. La forte croissance démographique du quartier rend alors les conditions de vie de plus en plus difficiles. La demande pour un travail est à la hausse, les emplois rares, le nombre de postes limité et la paye rarement suffisante pour subvenir aux besoins des familles. Appelé officiellement Faubourg Québec, parce que la route en direction de Québec traverse ce faubourg, il est bientôt aussi connu sous le nom de Faubourg Amelas, en référence aux gens qui allaient glaner sur les quais du port, la mélasse s'étant échappée des barils en arrivage. Jusqu'en 1865, la ville de Montréal ne comporte qu'une seule paroisse, sous l'autorité des Sulpiciens, et une seule église, l'église Notre-Dame. Aucune chapelle ni desserte n'est ouverte dans le faubourg Québec, malgré la forte concentration de la population de cette partie de la ville. Ainsi, pour les baptêmes, mariages, funérailles et autres services religieux, les gens du faubourg devaient se rendre à l'église Notre-Dame, et ce malgré les quelques 2 kilomètres à parcourir et les mauvaises conditions souvent rencontrées en chemin. Rappelons ici les difficultés vécues à une époque où le taux de mortalité infantile était élevé. Dans les heures suivant la naissance, on se pressait pour aller faire baptiser les nouveau-nés afin d'éviter que leur âme ne se perde dans les limbes, advenant leur décès. Imaginez donc une famille devant se rendre aux petites heures du matin à l'église Notre-Dame, en plein hiver, pour faire baptiser le petit dernier qui, peut-être, ne survivra même pas à ce parcours. Monseigneur Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, de 1840 à 1876, est touché par la marginalisation et les misères de cette population. En 1841, à la suite d'une rencontre marquante à Marseille avec le fondateur des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, Mgr Eugène de Mazenod, Mgr Bourget décide d'inviter un petit groupe d'Oblats à s'installer dans le faubourg Québec. Afin d'avoir une meilleure vue de ce qui vient, nous vous invitons à porter attention aux bâtiments avoisinant l'église. En 1848, Pierre Baudry, propriétaire terrien, boucher de profession et bienfaiteur, lègue 4 lots de terrain à Mgr Bourget. La même année, une chapelle provisoire en bois est construite sous le vocable de Saint-Pierre, commémorant ainsi la mémoire du bienfaiteur. La popularité des Oblats est instantanée et la fréquentation des célébrations est tellement importante dès leur arrivée que rapidement la chapelle ne suffit plus. Il est alors décidé de construire une église afin de la remplacer, et ce, malgré les réticences des Sulpiciens. La conception de l'église est confiée à Victor Bourgeot, déjà reconnu pour son travail alliant efficacité, coût raisonnable et raffinement. L'église Saint-Pierre-Apôtre est le premier ouvrage de Bourgeot en tant qu'architecte. Érigée de 1851 à 1853, ce sanctuaire de style néo-gothique fera la fierté des bourragans, nom que se donnent les gens du quartier pour démontrer leur appartenance à leur église et à la communauté oblate, pour s'affirmer comme citoyens à part entière, en réaction au mépris ressenti de la part des citadins demeurant dans l'enceinte de la ville. Après des années d'abandon, les bourragans participeront activement à l'érection de ce lieu de culte majestueux au cœur de leur très modeste faubourg. Déjà, le 23 juin 1851, un article du journal La Minerve décrit le chantier en ces termes élogieux. Le plan de cette église, qui est d'ordre gothique, est du meilleur goût dans des proportions assez considérables. Il promet à cet intéressant faubourg et à la cité un des monuments les plus remarquables de la province. Il est entier l'ouvrage d'un architecte canadien assez connu qu'il fait lui-même exécuter dans son ensemble. Le travail est suffisamment avancé pour exciter une louable curiosité et contenter le goût. Les gens du quartier étaient fiers de l'érection d'une telle église. Leur générosité n'aura d'égal que celle des oblats qui lutteront à travers les crises afin de répondre et aux besoins spirituels, sociaux et communautaires des Saint-Pierrais en leur offrant les services appropriés. À ce sujet, l'une des difficultés les plus contraignantes fut de ne pas pouvoir bénéficier de la sécurité financière que procure le titre de paroisse. En effet, ce n'est qu'en 1866 que Mgr Bourget obtint l'autorisation du Vatican pour diviser l'unique paroisse de Notre-Dame. Les Sulpiciens reçurent, en compensation de la perte de leur monopole, le choix de la première nouvelle paroisse. Ceux-ci, qui avaient déjà érigé une chapelle à deux rues à l'est de l'église Saint-Pierre, décident d'y ériger leur nouvelle paroisse et l'église Sainte-Brigitte de Kildare. La paroisse englobe ainsi le territoire du quartier Saint-Pierre, obligeant les Saint-Pierrais à participer au financement de la paroisse Sainte-Brigide. C'est ce qui explique l'étrange et peu commune proximité des deux clochers des églises catholiques, Saint-Pierre-Apôtre, un lieu de culte conventuel, et Sainte-Brigide de Kildare, paroisse reconnue à l'intérieur du territoire pour les communautés anglophones d'origine irlandaise et francophone. Les gens de Saint-Pierre ne purent obtenir officiellement leur paroisse avant 1901. Soit lorsque les Sulpiciens, submergés par les besoins de la population, décidèrent de laisser une cure aux oblats. Les missionnaires devinrent alors légalement responsables d'un tout petit quadrilatère surpeuplé. Aujourd'hui encore, à la suite d'un second legs de territoire en 1904, les limites de la plus petite paroisse de Montréal restent inchangées. Elle s'étend désormais entre les rues Saint-André, de Maisonneuve, Panay et le port de Montréal. Les gens de Saint-Pierre, en collaboration avec les Oblats et quelques grandes familles de la bourgeoisie canadienne-française, dont celle de Sir Georges-Étienne Cartier, parvinrent malgré tout à faire de Saint-Pierre-Apôtre un magnifique îlot paroissial. Avec le temps, quelques familles s'y établirent définitivement et prospérèrent. C'étaient généralement des petits commerçants et ils devinrent les notables de la paroisse. Le plus souvent, c'était eux qui dirigeaient les congrégations laïques, dont les Dames de Sainte-Anne, les Enfants de Marie et la Société de Tempérance. Ils furent responsables des activités de collecte de dons, des bazars, de l'enrichissement de l'église et de la vie liturgique, comme les processions, les chants et les loisirs de la paroisse. Ces diverses activités, les dîmes et autres donations, permirent ainsi aux Saint-Pierrais d'enrichir leur patrimoine religieux. Veuillez sélectionner la plage numéro 3 afin d'en apprendre davantage sur les grands bouleversements ayant ponctué la vie de ce quartier.